Salut tout le monde, 18h30, bienvenue aux amateurs de sport en plein milieu de la semaine. Plusieurs sujets d'actualité, pas de grosses nouvelles, mais quand même un paquet de sujets d'intérêt. Tiger Woods qui pourrait battre la marque de Sam Snead au cours des prochains jours à Torrey Pines. Un parcours, il a eu historiquement beaucoup de succès, il a gagné 8 tournois là-bas. Il pourrait gagner son 83e en carrière, puis on le sait qu'il peut gagner maintenant qu'il a recommencé à gagner. Alors, ça met la table pour une année fort intéressante dans le monde du golf, une année olympique également, où Tiger pourrait participer aux Jeux de Tokyo. On y reviendra. On va parler bien sûr de quelques autres sujets, notamment de hockey, évidemment, avec nos invités ce soir. On va parler avec Francis Perry qui est en KHL, un gars de la Rive-Sud qui évolue là depuis 5-6 ans et qui jouait contre Romanov pas plus tard que la semaine dernière. Donc, Francis va nous donner ses impressions sur le niveau de jeu de Romanov, mais contre des hommes en KHL. C'est différent du regard qu'on porte sur lui quand on le voit évoluer au championnat du monde de hockey junior. On va s'entretenir avec un entraîneur de Laurent Duvernay-Tardif de ses années collégiales, alors qu'il jouait à André Grasset. Ça serait intéressant de voir le regard que posait cet entraîneur-là sur lui à cette époque-là, avant qu'il devienne ce qu'il est devenu, médecin et joueur de ligne offensive partant des Chiefs de Kansas City. Olivier Renard s'entretient avec notre collègue Jérémy Filosa. Et pour Olivier Renard, il y a comme une espèce d'élément de surprise vu de son point de vue. C'est qu'il dit, il n'en revient pas que tous les gens disent ou que certains observateurs disent que l'impact manque de joueurs commencer l'année. Il dit, où est-ce que vous avez pris ça qu'on manque de joueurs? C'est pas du tout le cas. Alors, il s'indigne un peu de ça. L'entrevue, on vous la présente tout à l'heure. La chronique Sport Business avec Ray Lalonde. Mais d'entrée de jeu, nous accueillons Benoît Brunet. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, Mario.
Alors, milieu de semaine sans match du Canadien, t'es pas trop désemparé, mon Benoît? T'as pas sorti ta boussole pour savoir où tu t'en allais?
Non, écoute, j'ai eu l'opportunité de regarder le match de lundi soir, puis je peux te dire que j'étais sur la zapette hier soir, là, j'ai regardé tous les matchs parce que c'était une soirée importante quand même pour le Canadien, avec les clubs qui jouaient hier, puis c'est une soirée très décevante. T'sais, le scénario, là, c'était le scénario idéal pour tous les clubs qui ont joué. Puis malgré, les gens disaient aujourd'hui, ouais, mais les Rangers ont perdu. Les Rangers ne feront pas partie, je pense, des séries éliminatoires à la fin de la saison. Puis les Islanders, eux, continuent à grimper au classement. Puis il y avait une petite baisse de régime. Fait que tous les clubs qui devaient gagner hein, pour continuer à assurer leur place au classement ont gagné. Fait que ça peut être une très, très bonne journée. Puis j'ai hâte de voir ce que Columbus vont faire contre Winnipeg ce soir. Parce que le Canadien est à 9 points de Columbus. Ils vont avoir un match en main après le match de ce soir. Donc, on va espérer que les Blue Jackets perdent ce soir, mais c'est une soirée désastreuse pour Montréal hier.
Ouais, soirée désastreuse. Et t'as-tu vu la fin du match l'autre soir contre Minnesota? Pour ceux qui pensent que des fois, on a des gardiens qui donnent des buts faibles, as-tu vu Starluck, comment il a été faible en fin de match contre, voyons, je me souviens plus contre qui, mais un club qui est en lutte contre le Canadien. En
tout cas, c'était les Panthers.
Les Panthers, c'est ça. Ben oui, c'était leur cinquième de victoire de suite. Hey, deux buts faibles en fin de match. Ouais. Mais c'est là que quand t'en es rendu à te fier sur les résultats des autres équipes, qu'il faut que tu repenses à tous les points que t'as laissés sur la table par tes contre-performances. Et tu peux pas regarder, tu peux pas blâmer les équipes non. voisines, Benoît.
Absolument pas. T'espères, mais dans le fond, il faut que tu te concentres sur ton travail comme équipe. Puis ils ont trouvé une façon de gagner contre Vegas. J'étais un peu déçu de la manière qu'ils l'ont fait, mais ils ont trouvé une façon. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis ça a été un bon spectacle pour les partisans comparativement à ce qu'on avait vu contre Chicago. Fait que ça, c'était un point bonnie. Moi, je pense que les Canadiens devaient aller chercher. Ils sont allés chercher. Moi, je regardais le match. Tu parlais de ce match-là. Puis j'ai vu le match aussi hier des Panthers contre Chicago. Tu sais, la question que je me pose quand je regarde le Canadien, puis des fois, là, c'est le verre à moitié point, le plein ou le verre à moitié vide. Puis Barkov, le deuxième but qui est marqué dans ce match-là, son but, là, c'est un but de gars, de joueur exceptionnel. Puis moi, là, ma vision, c'est pas que le Canadien doit tanker. Là. Je suis loin de croire à cette façon-là de rebâtir un club. Mais quand je projette où le Canadien va être dans 2-3 ans, ben j'aimerais ça qu'on ait un Barkov dans notre alignement. J'aimerais ça qu'on ait un Marner qui n'a pas été un choix top 3. Barkov, c'est un choix top 3, là, mais Marner, c'est pas un choix top 3.
Ben, Kotkaniemi, c'est supposé de devenir ton Barkov, non? Il est supposé.
Le problème avec Kotkaniemi, c'est que je pense qu'on panique un peu vite. Puis je l'ai défendu. Puis même à un certain moment, moi, je pensais peut-être qu'il avait besoin d'un passage à Laval. Mais je peux te dire une chose, Mario. À 19 ans, je jouais avec les Olympiques de Hull. À 20 ans, 21 ans, je jouais dans la Ligue américaine. Fait que je pense qu'il faut être très patient avec Kotkaniemi, qui a seulement 19 ans. C'est une saison difficile. Barkov a eu des saisons difficiles quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Puis à long terme, avec le physique qu'il a, puis la grandeur qu'il a, là, quand il va se développer et qu'il va devenir un homme, parce que là, c'est encore un ado, là, moi, je pense qu'il va être correct. Est-ce que ça va devenir un Barkov? J'ai aucune idée. Mais je suis convaincu qu'il va être il va être meilleur que ce qu'il nous démontre là.
Mais moi, je te suis, Ben, je le disais pas de façon cynique là, quand je te disais en principe que Kanyemi, d'ici 2-3 ans, il devrait représenter ce que Barkov aux Canadiens, ce que Barkov représente aux Panthers de la Floride. Moi, je suis pas prêt à démissionner encore. Puis même si la production est pas là, puis même si c'est une année, il y a aucun doute que c'est une année décevante en termes de production, en termes de jeu, mais on voit quand même des signes de progression comme homme du jeune homme. Oui. Je parle pas de sa bagarre, là. Je parle de la façon dont il se dirige dans les coins. Tu sais, je veux dire, tu vois qu'il veut bagarrer, tu vois qu'il... Donc, est-ce qu'il va devenir un centre plus défensif, un 2e ou 3e? Tu sais, on verra. Mais dans la meilleure des optiques, t'espères encore qu'il va devenir ton premier centre d'ici 2-3 ans.
Je sais pas s'il va devenir notre premier, mais il va jouer dans ton top 6. Moi, je suis convaincu de ça. Peut-être que je suis dans le champ, là, mais de ce que j'ai vu de lui l'an passé, c'est sûr, comme tu l'as mentionné, que c'est un peu décevant cette année. Mais tu sais, il y a des matchs où je le regarde, là, puis il frappe, puis il patine, puis il y a des flashs, puis tout ça, là. Mais pour l'avoir vécu, puis je me compare pas à un Captain Yemi quand j'étais pêché, là, mais tu sais, quand je jouais junior à 19 ans, là, j'en ramassais des points en temps, là. Puis avec Stéphane Nouveau, ma première année dans l'Américaine, j'en ai ramassé. Puis la deuxième année, ça a été un peu plus difficile parce que je m'étais mal préparé, mais j'en ai ramassé en deuxième moitié de saison dans l'Américaine. Lui, là, au niveau de la confiance, là, il ramasse pas de points. Puis tout partout où il a passé, c'est ce qu'il faisait.
Oui.
C'est dur à accepter pour un jeune de 19 ans. Lui, il veut aider l'équipe, il veut produire. Il l'a toujours fait tout au long de sa carrière avant d'être repêché. Ça a toujours été un des meilleurs. Là, il arrive dans la Ligue nationale à 19 ans. Là, il joue contre des 21, 22, 23 qui sont meilleurs que lui. Il joue contre des 31, 32, 33, 34 qui ont beaucoup d'expérience, qui sont meilleurs que lui. Il domine encore la Ligue nationale. On a juste à penser à Crosby. Shea Weber joue du bon hockey pour le Canadien. Il y a plein de joueurs encore qui performent. Fait que c'est un processus à long terme avec Ted Konemi. Mais de ce que j'ai vu de lui, moi, j'ai pas démissionné. Je pense que ce gars-là va aider le Canadien à un certain moment. Mais mon point, c'est que j'aimerais qu'on continue à penser de cette façon-là. Puis la projection, quand je regarde Suzuki, quand je regarde Kotkaniemi, quand je regarde Paylink, tu vas probablement jouer dans ton bottom six, là, excuse l'anglicisme, mais dans tes, tu sais, dans la troisième, quatrième ligne, là. Ben, moi, là, j'aimerais ça qu'on fasse une projection, puis j'espère que Marc Bergevin va faire ça au cours des prochaines semaines quand on regarde le classement présentement. Puis si jamais il y a un offre qui est incroyable sur le marché, t'es obligé de laisser partir un vétéran que t'aimes beaucoup, mais t'as pas le choix de le faire pour le bien de l'équipe, pour t'assurer de continuer à rebâtir. Moi, c'est ça que je veux voir de notre DG dans les prochaines semaines, puis je te dirais les prochains mois, parce que, tu sais, la date limite des transactions, c'est une chose, mais après ça, il y a le repêchage, il y a la saison morte, il y a les joueurs autonomes, puis moi, je pense que c'est de cette façon-là qu'on va relancer notre club. On n'a pas présentement, Mario, un marché attrayant comme les Rangers de New York qui ont fait ce processus-là de rebâtir en envoyant une lettre, en échangeant plein de gars. Mais eux, ils ont eu le luxe cette année d'aller chercher Panarin. Panarin, c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale depuis le début de la saison, qui joue pas, là. Il est blessé présentement. C'est ça. Fait que, moi, je pense que ça passe par ça. Ça passe par des jeunes joueurs. Ça passe par le repêchage. Et ça passe aussi par de bons vétérans que tu vas garder avec la formation pour encadrer tes jeunes au cours des 2-3 prochaines saisons.
Ouais, ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça que moi, je serais bien surpris. Je m'attends probablement à quelques mouvements de personnel. On parle de la possibilité de se renforcer avec un autre deuxième gardien de but, mais il court pas les rues, puis il y a plein d'équipes qui en cherchent, par exemple, au Leafs de Toronto, puis à bien d'autres équipes. Mais juste pour compléter la conversation sur Kotkaniemi, je discutais avec Maxime, notre producteur, qui me parlait de Getzlaf, qui a pas eu un début de carrière super spectaculaire en termes de production. Il y avait une saison semblable à celle de Kotkaniemi à l'an 1, mais il y avait quand même 39 points, mais en 57 matchs. Mais ce que je veux dire, c'est pas un gars qui a rempli des filets adverses, c'était surtout un bonhomme fort, 6'3", 228 livres. Il pesait pas 228 livres quand il est arrivé dans la ligue, là, tu sais. Puis c'est un gars qui avait complété son stage junior, donc qui est arrivé pro, qui était plus mature que le jeune Keke quand il est arrivé. Puis je regardais la production, parce que tu dis, il en a marqué des buts de Kotkaniemi, puis tu piquais ma curiosité. Ça fait une couple de fois, je retourne voir, est-ce qu'il a déjà brûlé une ligue quelque part en termes de buts? Il a compté 81 buts dans les 6 dernières années. Il en a compté 17 dans la Ligue nationale. 11 l'an passé, 6 cette année. Mais en carrière, là, l'année où ce qui a compté le plus de buts, c'était en 2014-2015. Il avait compté 21 buts, 12 passes, 33 points en 30 matchs chez les U16, dans son club finlandais U16. Après ça, quand tu regardes sa production, quand il a joué avec des hommes en Finlande, avec Assat, Ligue pour hommes là, en Finlande, 2017-2018, 10 buts, 19 passes, 29 points en 57 matchs. Et l'échantillon, tu sais, on l'a pas vu dans le championnat du monde de hockey junior. C'était intéressant. Non. Comme Romanov, on dit de lui, bon, deux fois défenseur de l'année, fait que tu fais une projection. Mais la dernière fois qu'il a joué avec des gars de son âge, Kotkaniemi, c'est au U18, 2017-2018, il avait eu 9 points en 7 matchs, 3 buts, 6 passes. Fait que le reste, on se croise les doigts.
Des hommes, C'est un peu comme Romanov. Hein. En jouant avec des hommes, il y a moins de temps de glace à Romanov cette année dans KHL. Puis on sait plus.
Nécessairement.
Mais quand je le regarde jouer, là, pour ma projection, tu sais, on parlait des années 16, 17, 18, je suis d'accord avec toi, là. Mais auparavant, là, quand il a joué au niveau, probablement, tu sais, si je compare ça à Tom Peewee, Bantam, Midget, au
ouais,
au
j'imagine.
Québec, là. Imagine-toi, là, Mario, moi, c'est ce qui me rassure un peu. Je dis pas, écoute, j'ai pas la vérité absolue. On l'a pas parce qu'on sait pas ce qui va se passer avec lui dans les prochaines années. J'ai aucune idée. On l'a-tu amené trop vite? Est-ce qu'on va l'avoir brûlé?
Mais Ben, il va jouer dans la Ligue nationale. C'est un gars qui va une carrière de 10, 12 ans, 15 ans, on verra. Il va jouer. C'est de savoir quel rôle il va jouer. Je suis pas, j'ai aucune inquiétude qu'il va avoir une longue carrière, mais je sais pas quel rôle il va jouer encore.
Mais si on l'avait placé l'an passé, là, la façon qu'il se comportait avec l'équipe, là, avec un club junior à 18 ans, combien de points tu penses qu'il aurait ramassé l'année passée dans la Ligue junior majeure du Québec?
Ben,
et même cette année, il aurait brûlé la Ligue. Il aurait brûlé la Ligue dans la Ligue junior majeure du Québec à 18 ans, puis à 18 ans, si tu le retournes, il l'aurait encore brûlé. Il aurait été un joueur, moi je pense que de ce que je vois de lui, là, il aurait été un joueur dominant au niveau junior majeur du Québec.
Sais-tu quoi? J'ai hâte de voir sa fin de saison. Parce que, pardon, un petit chat dans la gorge. Parce que c'est vraiment important l'impression que les jeunes joueurs du Canadien et l'équipe dans l'ensemble vont nous laisser dans cette fin de saison-là. Parce que c'est ça qui va permettre aux Canadiens de se rendre au repêchage puis de relancer son opération au vent de l'espoir. Puis en attendant de faire des moves, des gestes de hockey également, sans congédier, tu sais, ou sans procéder à des grosses nouvelles ou à des coups d'éclat. Si ces jeunes-là, même en ratant les séries, comme Kotkaniemi l'an passé, c'était pas inspirant sa fin de saison. S'il peut vraiment avoir là, l'inverse de sa fin de saison l'an passé, ça sera déjà ça de prix pour des perspectives d'avenir à court terme, Ben.
Puis j'ai hâte de voir comment les clubs vont se préparer pour contre le Canadien, parce que c'est sûr que si Drouin revient, je m'attends pas à ce que Byron soit là pour le prochain match. Je pense que c'est le 28 janvier contre Washington. Mais si Drouin est là, si le Canadien va tenter de faire une poussée, je suis convaincu de ça. Si vous réussissez, on verra. On sait jamais là ce qui peut se passer dans le monde du hockey.
Mais Drouin, on parle du Super Bowl, hein, Ben? Il reviendrait le week-end du Super Bowl.
Pas avant ça, moi j'étais convaincu de la écoute ça.
Ben écoute, je suis pas le doc du Canadien ni le
ça c'est deux autres matchs.
C'est
là,
ça qu'on a entendu. Oui, oui.
Ben écoute, j'aurais aimé ça voir ça, mais ce qui est important à dire là, c'est que tu sais, t'as le camp d'entraînement. Après ça, c'est octobre, novembre. T'as décembre, janvier, là, ça commence à pousser un peu plus là. Mais les clubs là, qui vont tenter de faire une poussée, puis ils vont tenter de maintenir leur place au classement. Là. On le sait, là, ça fait longtemps qu'on voit du hockey, Mario. La vraie saison commence. La vraie saison de hockey commence pour se qualifier pour une place en série. Puis après ça, tu as les séries. C'est complètement autre chose, mais c'est là qu'on va voir ce que nos gens ont dans le corps. Parce que Kotkaniemi, il y a eu une baisse de régime après les fêtes l'an passé. Est-ce que Suzuki va vivre la même chose? Ça se pourrait que Suzuki vive la même chose.
Ben moi, honnêtement, je trouve que c'était un peu amorcé là dans la dernière séquence. Ça. On le voyait moins, mais tu sais, il joue des grosses minutes depuis plusieurs semaines.
C'est
fait
ça.
Que la pause, lui, devrait lui faire du bien. Fait que oui, je suis tout aussi curieux que toi. Une autre chose qui pique la curiosité tout à coup de pas mal d'amateurs de hockey, pas seulement ceux de Montréal, mais à travers la Ligue, c'est l'avenir à court terme d'Ilya Kovalchuk. On creuse ça, évidemment, on va aux sources d'informations qu'on peut avoir dans le dossier qui nous occupe. C'est pas évident parce que ce qu'on entend, c'est que c'est tu sais, nous autres, on est pressés de savoir ce qui va se passer, mais pour ceux qui auront à prendre les décisions, c'est encore très tôt. Là. Il reste un mois d'hockey avant la date limite des transactions. Mais élément à considérer, très certainement, Kovalchuk, quand il est revenu en Amérique du Nord après ses années en KHL, a choisi Los Angeles. Los Angeles l'a choisi, contrat de 3 ans racheté, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a établi sa famille là-bas, lui. Il a 3 enfants de 3 à 8 ans. Son épouse, je sais pas dans quelle mesure ils viennent le voir de temps en temps, mais l'école, tu sais, je veux dire, là, t'es impliqué, tes jeunes ont commencé l'école. Toi qui as du vécu de déménagement professionnel, tu as côtoyé des coéquipiers. Jusqu'à quel point tu penses, puis là, on ne le connaît pas personnellement, Kovalchuk, mais jusqu'à quel point là, ça va être un élément déterminant dans sa prise de décision pour son année prochaine? Cette année, c'est pas grave. Je pense qu'il est prêt à être un mercenaire. Mais l'an prochain, tu penses-tu qu'il hésiterait? C'est difficile de répondre à ça. Hein? Je sais pas jusqu'à quel point ça va compter.
Écoute, ce que je te dirais, c'est est-ce qu'il y a tant de clubs qui vont être intéressés à lui l'année prochaine?
Ça, c'est une bonne question, mais...
Parce que...
Je pense que oui. À moins qu'il gâche l'échantillon qu'il nous a montré à Montréal d'ici la fin de l'année, là.
Moi, la seule réflexion que je fais avec Kovalchuk, je suis content pour les partisans parce que des spectacles au Centre Bell, on n'en a pas eu beaucoup cette année. C'était très difficile au Centre Bell pour le Canadien à la maison, là. Et c'est un fit parfait. Tu joues sur ta première vague, ou en tout cas, tu te places régulièrement sur ta première vague. Tu lui donnes la chance d'être sur la glace quand le Canadien a besoin d'un but. Il l'a placé sur la glace contre Vegas quand il avait besoin d'aller chercher un but pour sceller l'issue du match. Il est toujours sur la glace dans des moments critiques dans un match, que ce soit du côté positif, du côté négatif. Il joue avec, sensiblement, tes deux meilleurs joueurs présentement ou tes deux gars les plus fiables. Tu l'envoies à Washington là, présent, aujourd'hui là, ou à Boston, là, il n'a plus le même rôle. Puis il sera pas sur la première vague en avantage numérique, en Washington, en Boston, dans plein de clubs à travers la Ligue nationale. Fait que pour moi, là, si je serais lui, c'est le genre de club que tu veux choisir. À moins vraiment qu'il serait capable de faire ce qu'Ovechkin a fait, dire là, je vais faire tout ce que j'ai à faire pour essayer d'aller gagner une Coupe cette année. Mais il n'y aura pas l'opportunité Kovalchuk ailleurs dans la Ligue nationale, à moins qu'il arrive dans une formation où il y a plein de joueurs blessés, puis on va avoir besoin de lui, comme le Canadien en fait, quand on est allé chercher. Pour lui donner l'opportunité de jouer ces minutes de qualité-là. Ouais, tu sais, à Boston, là, c'est Pasternak, c'est Bergeron, c'est Marchand, c'est Tony Crow. Il est pas sa première vague.
Ça dépend des équipes. Regarde la philosophie des Sharks de San Jose, là. Joe Thornton, puis tous ces autres, Patrick Marleau, tu sais, ils ont pas un, ils ont deux gars, là, des gars dans quarantaine au-dessus de bord. Fait que, tu sais, ça dépend. Il y a un GM quelque part qui tu sais, il y a tellement de besoin de talent. L'expansion s'en vient, là. Ça, c'est 23 autres jobs de plus dans la ligue. Puis on voit, hey, tu sais quoi, puis on le laissait de côté depuis son rachat de Los Angeles, puis on voit clairement qu'il est meilleur que combien de dizaines de joueurs dans la Ligue nationale, peut-être une couple de centaines, je veux dire, tu sais, c'est un...
Parce qu'on lui donne l'opportunité de jouer des minutes de qualité, ce qu'on peut faire à Los Angeles, fait que ça dépend toujours avec qui il va signer. Si ça va être un club de premier plan l'année prochaine, il n'y aura pas le même impact qu'il y a à Montréal présentement.
Mais je suis convaincu de ça. Mais Benoît, tu sais, la fenêtre Los Angeles nous en dit plus sur les Kings que sur Kovalchuk, selon moi.
Ben, eux autres s'en vont nulle part.
Ben, c'est ça. Ils ont pogné le cul-de-sac, eux autres aussi, là.
Puis, en plus de ça, ils le faisaient pas jouer. Ils ont démissionné sur lui parce que lui aussi a démissionné. Fait que, 1+1, ça fait 2. Ben, on te rachète, puis on s'en va, puis on s'en va dans une autre direction. Tu sais, il est excité, mais tantôt, ce que tu disais, moi, je trouve ça vraiment important, là. Je suis vraiment content de voir comment il performe, là. Mais je vais attendre encore, là. La date limite des transactions, c'est loin encore, là.
C'est très loin.
Dans un mois. Fait que j'ai hâte de voir comment il va performer après la pause contre des clubs peut-être un peu plus performants. Comment est-ce qu'il va jouer? Comment est-ce qu'il va se comporter? Mais pour moi, quand je regarde ce qui se passe avec lui, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel le pari qu'il a pris. Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que, j'ai parlé avec des personnes, m'ont dit, Boston est intéressé, mais ils sont pas convaincus qu'il est capable de faire la run des 2 mois en série éliminatoire.
Ben, il n'a pas joué de l'année, Benoît.
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Ça me fait rire. Mais tu sais quoi, c'est leur affaire eux autres. Ceux qui sont pas convaincus, ben, qui s'en passent puis qui vivent avec les résultats des gars qu'ils ont. Puis un gars qui va prendre le risque, comme Bergevin l'a pris un peu en désespoir de cause, puis là, il paraît bien finalement de cette décision-là. Ben c'est ça la game du sport professionnel, Ben, non?
Ouais, mais si Gallagher se laisse pas, il est-tu avec nous autres présentement? Non.
Non, puis...
Tu sais, à un moment donné, là, il y a de la chance un peu aussi là-dedans. Mais moi, là, ce que je vois de lui présentement, là, puis dans un club qui a besoin d'un Kovalchuk qui était prêt à lui donner ces minutes-là là, de qualité, ça va bien aller. Dans un club pacté, à Tampa, il n'a pas le même rôle. À Boston, il n'a pas le même rôle. À Washington, il n'a pas le même rôle. Tu sais, puis là, à un moment donné, c'est un peu comme Kotkaniemi tantôt, là, tu sais, c'est pas trop un avantage numérique.
Mais Benoît, c'est une fausse réalité. C'est une fausse réalité que les équipes de la Ligue nationale nous imposent pour des raisons financières, d'une certaine façon, parce qu'on entre des recrues au minimum de l'échelle salariale. Ah oui. On sort les vétérans de la Ligue qui, bien des fois, sont plus compétents à la glace pour encore une couple de mois ou une couple d'années, au nom du renouvellement. Et là, c'est rendu qu'un DG qui a des gars trop vieux avec une équipe qui performe pas paraît mal. Puis tu sais comment l'orgueil est grand chez les dirigeants du monde du hockey. Ben là, tu tasses le vieux qui te ferait mal pareil parce qu'il faut que tu vendes l'image que le meilleur est à venir. Puis le meilleur est à venir, c'est de faire jouer des jeunes, même s'ils sont pas prêts. C'est une fausse réalité, ça, là. C'est pas les 700 meilleurs joueurs de hockey au monde qui jouent dans la Ligue nationale en ce moment, Benoît. C'est plus vrai, ça. Je te dis pas que les meilleurs jouent pas dans la Ligue, mais je te dis qu'il y en a une coupe ici et là. Hey, regarde le gars de Chicago, là, j'oublie son nom, le Tchèque qui joue pour...
Kubalik.
21 buts. Il joue en Suisse l'an passé. Il a le même ratio. Il sort de... Boum! 21 buts. Il y en a des joueurs de hockey dans le monde, je pense, Benoît.
Je suis d'accord, mais il joue avec qui aussi?
C'est un bon point. Je vais te donner le mot de la fin là-dessus.
En bout de ligne, là, moi, c'est juste ce que je souhaite. Je souhaite qu'on le garde à la date limite des transactions.
Ben, moi aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, hey, si jamais il y a un... Qu'est-ce que ça nous donne d'aller chercher un autre choix de 4?
Y es-tu mauvais pour nos jeunes?
Il est pas mauvais pour nos jeunes. Il est bon pour le spectacle. On est capable de le garder l'année prochaine. C'est parfait. Il y a une chose qui est sûre, Mario. Tu rebâtis pas ton club avec Kovalchuk. C'est un effet tampon qui peut aider tes jeunes qui vont enlever de la pression peut-être à des buts qui n'ont pas besoin de marquer des buts. Tu continues à les utiliser de cette façon-là. Moi, j'aimerais mieux qu'on sacrifie des joueurs qui sont encore sous contrat pour la prochaine saison, puis ils continuent à bâtir avec des prospects et des jeunes de repêchage, mais...
On est sur le bord de s'entendre. Hey, bon souper, Benoît.
Hey, merci, Mario, c'était bien le fun.
Merci d'avoir été là, c'est toujours le fun. Ouais. Ciao, à très bientôt. Je vous parle de Targa au retour, notamment. Encore un petit peu de Kovalchuk sur une suggestion qu'il a faite, et Ray Lalonde s'en vient dans quelques minutes.